La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, nous entamons une semaine sur un écrivain et journaliste américain surtout connu aujourd'hui pour avoir créé la série The Wire. Son nom, David Simon. Vous ne trouverez pas dans les séries créées par David Simon l'hystérie propre à certains scénarios qui veulent que chaque épisode se termine par la menace sérieuse de mort, d'emprisonnement ou de séparation amoureuse du personnage principal, visant à s'assurer la présence des téléspectateurs à l'épisode suivant. Dans Tremé, Deuce ou Show Me a Hero, David Simon ne cherche pas seulement à créer du temps de cerveau disponible, mais également à faire une œuvre, à porter un regard esthétique et politique sur le monde à l'égal des grands récits de la littérature. Nous tâcherons de le montrer d'ici à jeudi. Demain, par exemple, nous nous arrêterons sur sa création originale la plus célèbre, The Wire, donc en français sur écoute, celle qui a montré le chemin d'une télévision qualitative à un grand nombre de scénaristes et qui a permis d'autres écritures pour le petit écran. Ce sera avec l'universitaire Ariane Hudelet. Mercredi, Marie-Hélène Baquet nous parlera de la représentation de la ville de Baltimore dans The Wire, ainsi que de la réception de cette série en France. Puis Anne Crémieux analysera pour nous la présence des personnages queer dans cette série qui se veut et se dit réaliste. Enfin jeudi, nous élargirons la focale en nous demandant avec François Jost de quoi les séries sont-elles le symptôme. Puis nous attacherons à décortiquer leur générique avec Séverine Barthes. L'un comme l'autre sont sémiologues et spécialistes de la télévision. Et aujourd'hui, aujourd'hui pour notre émission introductive et biographique, je recevrai en seconde partie le philosophe Mathieu Pott-Bonneville. Il nous parlera notamment de l'importance du canapé installé au pied des immeubles et sur lequel se trouvent les dealers de The Wire dans la première saison. Mais en première partie, nous sommes en votre compagnie, Eric Vera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste télé, vous avez été journaliste, vous l'êtes encore. Vous avez été même l'un des premiers journalistes à parler de David Simon.
Bah oui, je crois que c'était à la fin des années 90. Six pages dans six, ouais, je crois, six double pages dans Synopsis.
Synopsis, un magazine qui a disparu, ouais, malheureusement.
Exactement. Et juste avant ça, j'avais eu l'occasion aussi d'aller déjà à Baltimore sur une série qui s'appelait Homicide. Et j'y allais pour voir Tom Fontana, mais je le savais pas encore, mais elle était là parce qu'il y avait eu ce livre écrit par David Simon qui s'appelle Homicide. A Year in the Killing Streets.
C'était une adaptation, cette série, du livre dont on va beaucoup parler justement dans cette émission. Est-ce que vous vous souvenez de la découverte que vous avez faite de cet auteur ? Est-ce que vous vous êtes immédiatement dit, là, il y a une voix qui me semble particulière ?
Ah, carrément. Bon, déjà, la série elle-même était extrêmement bien adaptée. Tom Fontana, Barry Levinson, Barry Levinson, qui est un enfant du pays, donc de Baltimore, connaissait très bien l'endroit. Et puis très vite NBC, donc qui est plutôt une antenne nationale, donc grand public, et vous verrez ça a son importance quand on, je pense on en reparlera, fait une série qui en fait ne ressemble pas aux autres séries policières, les fameux cop shows, avec on dit que c'est une série un peu tchékovienne où les policiers philosophes aux toilettes se demandent ce qu'ils font là, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça dans les séries américaines beaucoup plus efficaces.
Je sais pas si on philosophe beaucoup aux toilettes chez Tchékov, mais on pourra reparler un petit peu plus tard du côté tchékovien, précisément de l'œuvre de David Simon. Alors, quand vous êtes allé à Baltimore, je crois que vous y êtes allé aussi pour Canal+, vous y êtes allé plusieurs fois. Est-ce que vous avez retrouvé cette atmosphère très particulière qui est l'atmosphère de David Simon, à la fois dans ses livres et aussi dans sa série la plus célèbre, The Wire, ouais, Eric Vera?
Je m'attendais bien sûr à quelque chose parce qu'il y avait la représentation visuelle qu'on avait pu voir, les petites maisons en briques.
On a l'impression de connaître cette ville maintenant.
Après, c'est vrai que c'est une ville moyenne. C'est marrant à dire, mais bon, on y circule bien. C'est vrai que c'est ni une toute petite ville perdue au milieu de rien. Ça a quand même un très grand passé, l'école à Washington. Et c'est pas non plus une très grande ville, à peu près 1 million d'habitants, un petit peu moins. Et par contre, c'est une ville extrêmement violente. C'est une ville extrêmement violente.
Vous l'avez senti ça en y allant ?
Bah parce qu'on a demandé à David Simon de nous donner l'adresse du fameux corner, hein, là où il a écrit son deuxième livre qui s'appelait The Corner et donc qui était l'observation pendant un an d'un carrefour où les dealers et où toute la population de ce quartier vivait.
Donc le carrefour le plus violent de Baltimore.
Bon, en tout cas, il doit en faire partie le soir. Nous, on est passé en journée. Bien sûr, on n'a pas poussé le vice. Mais on a loué un gros 4x4 avec des vitres fumées, parce que je venais pour Canal+, donc il fallait ramener des images. Donc on a tourné dans le quartier. À mon avis, à un moment, commençait un peu à nous regarder un peu de travers, parce qu'il y a ce 4x4 qui passait sans cesse. Et bon, après la journée, on est passé même en fin de matinée. On s'est fait la réflexion. On s'est dit, à cette heure-là, en fait... Les gens de la nuit dorment, quoi. Il y a pas encore cette vie, à mon avis, cette faune, on pourrait dire. Il y avait certes des gens qui passaient et qui avaient de drôles de têtes parfois.
Ouais, mais vous n'avez pas vu de trafic de drogue à proprement parler.
Non, j'ai pas vu de trafic de drogue. En revanche, on a vraiment été, comment dire, dévisagés. On a croisé des gens avec qui on n'avait pas forcément envie de. Enfin voilà, avec le caméraman, on n'a pas du tout joué au fait de sortir le matériel dans la rue, ouais. Toutes ces choses-là. On a été extrêmement prudents. Cela dit, David Simon, on lui avait demandé son avis et il nous avait dit assez calmement si vous respectez le quartier, si vous passez dans ce quartier, moi je vois pas de problème à tout ça. Bon après il donnait que son avis, hein, bien sûr, et c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, bien sûr on n'en a pas fait trop et ça s'est bien passé.
Alors mettons-nous un petit peu dans l'atmosphère, l'univers de David Simon. Vous parliez tout à l'heure de Homicide, qui est donc la série adaptée du livre de David Simon qui s'appelle Baltimore. Hein, c'est évidemment la traduction française, puisqu'en anglais, le titre c'est Homicide, A Year in the Killing Streets. C'est un livre qui a été traduit en français par Héloïse Esquier et qui a été adapté pour France Culture par Michel Pomaret. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait.
Un homme de la brigade criminelle survit en apprenant à lire dans les voies hiérarchiques comme un romanichel dans les feuilles de thé. Lorsque les huiles posent des questions, il se rend indispensable en apportant des réponses. Lorsqu'il cherche une raison de coincer quelqu'un, il monte un rapport si carré qu'ils vont penser qu'il dort avec un exemplaire du manuel de la police. Et quand ils sont simplement à la recherche d'un bout de viande à épingler au mur, il apprend à se rendre invisible. Si un inspecteur possède suffisamment de parades pour tenir debout après la sporadique affaire prioritaire, le service lui reconnaît un peu de matière grise et lui fiche la paix, de sorte qu'il peut retourner répondre au téléphone et examiner des corps. Et il y a de quoi faire, à commencer par les corps matraqués au gourdin et à la batte de baseball, ou ravagés à coups de démonte-pneus et de parpaings. Les corps avec les plaies béantes, occasionnées par des couteaux à découper, ou des coups de carabine tirés de si près que la bourre de la cartouche est logée au fond de la blessure. Les corps dans les cages d'escalier des cités, la seringue hypodermique toujours plantée dans l'avant-bras, et ce calme navrant dans les yeux. Les corps repêchés dans le port, des crabes bleus accrochés aux mains et aux pieds. Les corps dans les caves, les corps dans les ruelles, les corps sur des civières derrière un rideau bleu aux urgences du CHU, avec des tubes et des cathéters dépassant toujours de leurs organes, comme dans une parodie des meilleurs atouts de la médecine. Les corps et les morceaux de corps qui sont tombés des balcons, des toits, des grues de la gare maritime. Les corps écrasés par de lourdes machines, asphyxiés par le monoxyde de carbone, ou suspendus au plafond d'une cellule de détention provisoire du commissariat du central, par une paire de chaussettes en éponge. Les corps sur le matelas d'un berceau, entourés d'animaux en peluche. Les corps minuscules dans les bras de mères éplorées, qui ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas de raison. Le bébé a simplement arrêté de respirer.
Lecture par Simon Goubert. Alors ça, c'est un exemple la prose adaptée de David Simon. Il a écrit de nombreuses séries télévisées, Tremé, Show Me Your Hero, Deuce. Est-ce qu'on retrouve, Eric Vera, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, une atmosphère ou une patte qui serait celle de David Simon et qu'on pourrait retrouver un petit peu dans toutes ses créations originales?
Alors, Baltimore, donc en français, c'est quand même essentiellement la compilation de ces deux séries qui sont Homicide et puis The Wire. Après, c'est vrai que il faut aussi peut-être regarder sa carrière. C'est vrai que le début de sa carrière est un début où il expérimente des choses. Il a moins de puissance. Il n'est pas un auteur très reconnu à la télévision. Il a cette chance d'être chez HBO et il va y avoir une fidélité avec HBO. Et donc on peut pas dire qu'aujourd'hui, par exemple, The Deuce ou Show Me the Hero soient fabriqués dans la même énergie qu'ont été fabriqués The Wire ou Homicide. Donc c'est difficile de dire qu'on y retrouve toute l'œuvre de David Simon. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est attaché aux mots. C'était un journaliste. Il a fini par être frustré de raconter des histoires en très peu de signes, quelques centaines de signes, souvent pour des papiers de presse écrite. Il est allé vers le livre. Et puis, à un moment, il s'est aperçu que pour que sa voix porte, il y avait un seul médium qui était utile, c'était la télévision. Mmh. Et donc, David Simon, c'est aussi cette trajectoire. Et donc, mais il reste extrêmement attaché aux mots, et donc c'est quelqu'un d'assez intransigeant sur ce qui est dit. C'est vraiment un amoureux des mots, c'est un passionné aussi des histoires, et c'est pas toujours le cas, je pense, chez les scénaristes américains.
C'est une trajectoire qui ne commence pas à Baltimore, parce qu'on pourrait croire qu'il y a quelque chose de vécu dans l'adolescence chez David Simon, tellement il semble décrire, tellement il est à l'aise finalement pour décrire ce milieu de la criminalité de Baltimore. Il n'est pas du tout né
à Baltimore. Il est né à Washington, mais après il a œuvré en tant que crime reporter, donc c'est-à-dire qu'il est journaliste, toutes les affaires criminelles pendant, je crois, presque une décennie. Donc, quand vous êtes tous les jours sur le terrain, je pense que la sociologie violente, criminelle de la ville, vous l'avez en vous. Puis après, il y a des rencontres. Il en parle dans pas mal d'articles avec Ed Burns, donc qui est à la fois ce policier. Il le rencontre donc à la police de Baltimore et il dit de lui, c'est le premier policier que je voyais avec un livre de Hannah Arendt sur son bureau.
Ouais. D'ailleurs, il ne sera pas policier toute sa vie.
Non, c'est ça. Donc lui, il va muter en enseignant, puis après en producteur télé, puisqu'il va être le co-auteur de David Simon, au moins sur The Wire. Donc on voit bien comment il va chercher. Enfin, le propre de toute façon des grands auteurs de télévision, je parle bien de télévision, c'est souvent d'être bien entouré. Et en l'occurrence, dans The Wire, qui est quand même ce qu'on peut aujourd'hui appeler sa série la plus aboutie,
encore
comme par hasard, il est entouré d'un aéropage de grands auteurs.
Parce que c'est pas la dernière série, ça reste pour vous la plus aboutie.
C'est la plus aboutie parce que je pense quand même que David Simon, et il le disait au début de sa carrière, je ne peux pas écrire sur ce que je ne connais pas, est en train. Quoi qu'il arrive, de toute façon, en multipliant les sujets, j'ai vu que là, il a des dizaines de sujets en préparation, tous les plus ambitieux les uns que les autres. Clairement, il y a un moment, il va sortir, enfin, il est déjà sorti de ce journaliste de Baltimore qui raconte Baltimore parce qu'il le connaît bien. Mmh. Mais c'est un fan, c'est un amoureux fou de jazz. Donc, pour lui, écrire Trimmy, donc qui se passe dans l'après-Katrina, mais dans le monde de la musique, ça a quand même du sens. Mais vous voyez, par exemple, Ed Burns, qui était pratiquement son ombre sur The Wire. Dès lors que Ed Burns n'avait pas de légitimité à la Nouvelle-Orléans et dans la musique, il y a un moment, ils ont fait le constat qu'il n'allait pas co-écrire avec lui cette série-là.
Donc, ouais. C'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de issu de la bourgeoisie juive d'une suburb de Washington.
Je ne connais pas cet aspect-là de sa vie. Après, c'est vrai que... moi, je le vois comme quelqu'un qui est, c'est quand même un homme en colère. C'est quand même quelqu'un qui s'implique aussi dans la vie et de Baltimore, mais aussi des États-Unis, qui a une vraie vision sur la société, qui a des solutions éventuellement au combat contre la drogue. Je ne sais pas si c'est les bonnes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Il y a une empathie. Alors, je ne sais pas si ça vient d'une enfance heureuse ou pas, parce que là, je ne connais pas cette partie de son parcours. Mais c'est vrai que rarement, j'ai rencontré quand même quelques auteurs de séries télé, et rarement j'ai été face à quelqu'un qui est aussi cultivé et qui a autant de choses à faire passer.
Alors, sur ses origines et son enfance, je vous propose d'écouter David Simon lui-même, interrogé en 2012 par François Angelier.
I grew up in a household that...
J'ai grandi dans une famille où on débattait de tout un tas de choses. Nous étions encouragés à participer à une dialectique familiale nimbée de politique, où il fallait tenir bon et faire valoir des arguments politiques, même quand on était enfant. Mon père écrivait, il avait toujours voulu être journaliste. Il avait démarré sa carrière comme journaliste, puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il était dans l'armée, mon frère est né peu après la guerre, et il fallait qu'il gagne plus d'argent qu'il ne pouvait en gagner dans un journal de New Jersey. Donc, il s'est lancé dans un autre domaine d'activité. Mais il adorait le journalisme, il adorait les journaux, mon père.
Et
moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait souvent des journalistes qui venaient à la maison. C'était des invités de mes parents. Et c'était des personnages, certains, c'était incroyable de les voir. Et là encore, évidemment, on débattait de tout un tas de choses dans le domaine politique. Tous les journaux traînaient partout dans la maison. Il y avait des livres partout dans la maison aussi. Et puis, c'était un petit peu la fin de la grande époque du journalisme. Moi, je fais partie de la dernière génération qui a véritablement profité du journalisme, qui était à l'époque une entreprise économique viable. Donc, c'est ainsi. C'était ça un peu mon enfance.
La compagnie des auteurs sur France Culture, et nous sommes avec vous, Eric Vera, pour parler de The Wire et de son créateur David Simon. On vient de l'entendre d'ailleurs, c'est dans une atmosphère de dévotion vis-à-vis du journalisme qu'a grandi David Simon, ce qui l'a conduit à faire des études de journalisme à l'université de Maryland. Il paraît qu'il était déjà à ce moment-là correspondant pour le Baltimore Sun et que les syndicats du Baltimore Sun ont demandé à ce qu'il soit embauché parce qu'il travaillait deux fois plus qu'un journaliste normal payé par le Baltimore Sun. Vous
j'ai
confirmez
entendu, si j'ai entendu cette anecdote, mais ça, enfin moi, voyant le personnage, ça m'étonne pas, et je pense que cette énergie là, il l'a déplacée sur la série télé. Quand on est allé le voir avec Canal pour Canal Plus, donc en 2000, je ne sais plus, 2010 par là. HBO nous avait interdit d'aller le voir parce qu'il était en fait sur Tremé, mais Tremé était en train de s'arrêter. Et nous, on venait le voir pour The Wire, et HBO voyait pas
Tremé,
du tout.
Tremé, c'est la série sur la Nouvelle-Orléans.
Ouais, la série suivante, et HBO voyait pas l'évidence de le voir. Et il s'avère que j'avais son email parce que je l'avais déjà interviewé. Et il nous a fait venir à Baltimore. Il venait d'avoir un bébé. Il nous a reçu avec son bébé dans les bras, et il avait en fait très très envie de discuter avec des Français de The Wire. Et on est parti sur... il s'est moqué de nous parce que il a commencé à nous expliquer que The Wire était basé sur le modèle du film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, film qui avait été interdit en France très longtemps, oui, puisque critiquant l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et il avait, comme ça, je pense qu'il avait vraiment pensé à nous, et il avait un certain nombre de choses à nous dire parce qu'on était Français. Et encore une fois, je pense qu'il n'avait pas forcément de raison de nous... Souvent, les auteurs ils se cachent derrière les services de presse, choses comme ça. Et moi, franchement, ça m'est rarement arrivé de voir quelqu'un d'aussi passionné, et voilà, donc on a passé une journée avec lui. Je pense qu'il avait peut-être d'autres choses à faire, mais il avait envie de partager.
Et sur cette mythologie qu'il y avait dans la famille Simon autour de la grande presse, du journaliste qui a un rôle social, ça nous conduit évidemment à réfléchir à l'aspect journalistique de ces séries, réalisme, enquête, documentaire. C'est des questions que vous avez dû lui poser, la question du genre finalement de ces récits et de ces séries.
Moi, ce que j'en ai compris, c'est que contrairement à la plupart des auteurs américains, en télévision. Là où une question se pose entre efficacité et vraisemblance, il ira constamment vers la vraisemblance, ce qui est plutôt une posture, on va dire, anglaise. Ça ressemble plus à une série anglaise qu'à une série américaine. Et ça, par exemple, il a fallu le faire comprendre à HBO, qui, même si elle se vend comme... elle a longtemps construit sa ligne éditoriale sur le fait qu'il ne faisait pas de la télé, il faisait du HBO. Même ce type de série, David Simon a dû l'expliquer. Le mémo entre lui et puis Caroline Strauss de HBO est très connu, je pense que beaucoup de gens l'ont lu. Et donc, en 2 kilomètres de mail, il explique pourquoi il va écrire une série extrêmement naturaliste où, justement, les valeurs du journalisme vont être là, puisqu'il va... Il va porter un certain nombre de choses qui sont totalement connues. Alors, ça entraînera d'ailleurs une guerre avec la mairie de Baltimore, qui au début avait ouvert ses portes, et puis après a commencé à dire bon, attendez, vous êtes en train de décrire une ville absolument dingue. Et il a fini par leur dire non, c'est juste ce que je viens de vivre pendant 15 ans en tant que journaliste et en tant que créateur de séries télé.
Alors, journalisme, et en même temps, pas tout à fait, parce que en permanence, David Simon replace le récit au centre de son travail, dans son premier livre dont on parlait tout à l'heure, Eric Vera, Baltimore, une année au cœur du crime, paru donc chez Sonatine en 2014. Ce premier livre s'ouvre par une très longue citation du Deutéronome, le dernier livre de la Torah. Est-ce que vous diriez qu'il y a une volonté illustrée par cette longue citation chez David Simon d'ancrer sa vision du monde contemporain dans un récit qui serait tout simplement le récit de l'humanité?
C'est ouf. En tout cas,
la réponse est un peu dans la question.
Non, oui,
je crois.
Oui, bien sûr. Enfin, je pense que qui a vu une série de David Simon sait qu'il n'est pas dans la problématique de beaucoup d'auteurs de séries télé, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour divertir un téléspectateur. Il n'est pas là dans cette optique-là. Donc déjà, ça change bien sûr la manière de construire. Après, dans le cas de Baltimore, donc du livre, ce qui est intéressant, c'est que sans cesse, il passe de ce multi-point de vue, donc c'est extrêmement riche parce que bien sûr, il peut passer du côté des dealers, du côté de la police, du côté de la sphère politique, et il revient aussi par un certain nombre de chapitres sur ce que c'est que la justice, ce que c'est qu'un procès, ce que c'est qu'un dossier à monter pour avoir un bon procès. Et normalement, ça, on a le droit à ça, mais vraiment de manière extrêmement légère dans beaucoup de polars. Lui, c'est là où Il installe tout, et après, bien sûr, il inonde d'humanité, et bien sûr, enfin, on a à la fois l'énergie des personnages, et en même temps, on apprend quelque chose, quoi. Quand on finit un épisode, quand on finit une saison, on a forcément appris quelque chose. C'est pas le cas de beaucoup de séries télé.
Il y a Richard Price aussi, qui est donc un autre écrivain, qui a fait la préface de Baltimore. Et lui, il dit que David Simon a toujours eu la conviction que Dieu est un romancier de premier ordre. Vous l'avez rencontré, je crois, Richard Price.
Ouais, j'ai rencontré Richard Price, le même voyage. Donc c'était rigolo de les entendre parler de leur rencontre, chacun de leur côté, et le récit est extrêmement le même, c'est le même combat de boxe, c'est la même soirée, il y a les mêmes émeutes, c'est un soir d'émeutes, ils ont un agent commun. Non, je pense que oui, quand vous avez vu Clockers, lu Clockers de Price, il y a le même souci, hein, d'ailleurs le livre est un pavé, bon... On juge pas un livre à son nombre de pages, mais c'est vrai que comme Simon, il aime décrire de manière extrêmement précise les choses. Il aime installer une ambiance, il aime installer un cadre légal qui fait qu'après, bien sûr, on se sent vraiment immergé. Mm-hmm. Et donc, dans le cas de Price, c'est vrai qu'ils se sont un peu reniflés parce que je pense que Price était peut-être celui qui était le seul être au-dessus de lui, je dirais, en termes d'œuvre, en termes Pellicano, c'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui
un autre romancier de roman noir avec qui Simon a beaucoup travaillé.
Et d'ailleurs, il travaille encore avec lui à Sur the Deuce, et notamment mm-hmm. aussi avec Richard Price. Et c'est vrai que avec Price, il y a eu quelque chose, il y a eu une vraie rencontre parce que ça aurait pu ne pas fonctionner. Mm-hmm. Je pense que le propre du showrunner ou du créateur en série télé, c'est de bien s'entourer, mais c'est souvent de rester le chef. Et c'est vrai que David Simon, à mon avis, maintient le cap, c'est lui le chef, mais d'une certaine manière, il sait aussi accueillir des talents comme Price.
Tout à l'heure, quand vous avez parlé de Tchekhov, de Kafka. Est-ce que là encore, vous, vous avez interrogé David Simon sur ces grandes références ?
En fait, on en a plutôt parlé, donc le voyage d'avant avec Tom Fontana. Et Tom Fontana était très soucieux, justement de coller aux lubies ou ouais. de David Simon. Alors parfois il savait pas les. David Simon faisait partie du staff, hein, donc il pouvait bien sûr lui demander. Mais encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Enfin, la posture c'était un vrai exercice d'accueillir dans son staff d'écriture le créateur du matériau pour lequel vous allez faire une série. Donc Tom Fontana parlait avec beaucoup de, il était en pointillé là-dessus, mais c'est clair qu'il voulait aller vers cette série un peu décalée où les policiers parfois se demandent effectivement ce qu'ils font là, et avec de longues tirades qu'on voit pas souvent en télévision, avec un refus de l'action, avec vraiment quelque chose de
un refus de l'action vraiment, ou alors un autre type d'action, une autre manière de filmer.
C'est une série où il y a très peu d'action. Là, je parle de Homicide, hein. Mm-hmm. The Wire, et je trouve pour le coup une série où il y a plus de scènes de violence quand même. Mais dans le cas de Homicide, de Life on the Street, c'est une série extrêmement statique, beaucoup d'intérieur, une volonté de dessiner les gens plus que de les voir faire des choses extraordinaires.
Quoi. C'est une volonté d'abord esthétique ou alors plutôt politique selon vous, cette manière de filmer plus lente en effet que dans les autres séries.
C'est une volonté certainement, je crois, enfin c'est l'époque de NYPD Blue par exemple, hein, qui on va dire un petit peu le pendant, c'est à peu près les mêmes années. D'ailleurs, David Simon a écrit un épisode de NYPD Blue, bon, un seul, mais globalement c'est vraiment c'est une manière de se placer. Et NBC vendait Homicide comme sa série qui ne marchait pas, mais qui était cet objet un petit peu plus intellectuel, un peu plus tordu, quoi. Ouais. Pas une série efficace justement, et donc dans la liste des choses à cocher, il y avait certainement s'éloigner un petit peu du récit classique où on a des fusillades, où on a des poursuites en voiture.
Mmh. Alors dans le style très particulier hein, des séries de David Simon et aussi de ses livres, il y a cet humour un peu désenchanté qui est l'humour aussi des policiers, sans lequel ils auraient sans doute du mal à aller au bout de leur journée. Je propose d'écouter une petite citation extraite de Baltimore, élue par Simon Goubert.
Vous regardez le corps ? Vous regardez ce corps comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art abstrait. Vous l'observez de tous les points de vue imaginables en quête de signification et de structure plus profonde. Pourquoi, vous demandez-vous, ce corps se trouve-t-il là ? Qu'est-ce que l'artiste a laissé de côté ? Qu'est-ce qu'il a introduit ? À quoi pensait l'artiste ? Qu'est-ce qui peut bien clocher dans cette image, bon sang ?
Quoi penser l'artiste criminel quand il a tiré finalement dans ce sens-là et pas dans un autre ? Cet humour noir, évidemment, il est toujours assez présent.
Ouais, d'ailleurs, moi, je pense à une scène d'un des premiers épisodes de The Wire où McNulty et Bunch vont aller dans une cuisine retracer le trajet d'une balle, et donc en ne disant que fuck à peu près, ça dure à peu près 2 ou 3 minutes.
On entendra peut-être cette scène au cours de la semaine de la compagnie
du
Joker.
Ça c'est effectivement extrêmement surprenant. Ouais. Et c'est aussi une façon de il y a pas de bon mot, c'est pas de la comédie, de temps en temps il y a des situations où on ne sait pas quoi dire d'autre qu'un mot,
on peut le dire parce que c'est en anglais, alors c'est presque pas un gros mot en français. Un mot peut-être pour terminer sur un autre livre enquête de David Simon qui s'appelle Easy Money. Il a comme ça rencontré quelqu'un qui s'appelle Melville Williams, qui s'appelait, je crois, je ne sais pas s'il est toujours en vie, et qui était une sorte de géant de la pègre de Baltimore. Il est allé le rencontrer en prison, il a fait des entretiens avec lui, et c'est là où on voit qu'il y a aussi un certain courage physique chez David Simon, parce que c'est une personnalité, Little Melvin, Melville Williams, qui était une personnalité dangereuse. Cette enquête, est-ce que vous l'avez en tête? Est-ce que le travail de Simon?
J'ai pas cette enquête en tête, mais le personnage, de toute façon, a son existence dans The Wire. Et ce qui est impressionnant chez David Simon, c'est que il vit à, je sais pas, c'est moins d'un kilomètre, c'est à peu près un kilomètre de ces fameux quartiers dont il parle.
Vous êtes allé chez lui quand vous l'avez vu?
Oui, alors il s'avère que là, chez lui et sa maison de production, c'est un coin de rue, donc les deux n'ont pas la même adresse. C'est un corner, mais dans un quartier très, très bobo, très calme. Mais globalement, donc ça, il peut aller de chez lui à sa maison de production par un couloir, par un jardin intérieur. Donc on a vu la fameuse writing room de The Wire. Moi, elle était totalement vide et puis avec beaucoup de bazar. À mon avis, rien ne devait se faire à ce moment-là. Mais pour en revenir à... Oui, il est vraiment dans la ville. Et d'ailleurs, il le disait pas comme ça, mais globalement, il n'avait pas intérêt à dire des choses totalement erronées sur les personnages. Et il avait, par le circuit des policiers, par le circuit de beaucoup de gens qui connaissaient, il avait des retours sur la série. On lui disait, bah oui, ça c'est bien vu.
Les gangsters ont regardé The Wire? Ils s'y sont retrouvés?
Bah visiblement, oui, visiblement, il avait des retours sur justement ce que les dealers pouvaient. Et eux, bon, ils se trouvaient plutôt cool dans la série, quoi, voilà. Mais après, bon, ça dépend des personnages, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'il était vraiment au contact de ces gens-là. Je veux dire, c'est pas un auteur de Los Angeles qui raconte, qui fantasme quelque chose sur une ville du Midwest. Il vient trois fois pour des raisons de production, de tournage, et il s'en va. C'est quelqu'un qui vit là, donc d'une certaine manière, il faut qu'il assume aussi ce qu'il a à dire sur la ville, sa dangerosité, et puis sur ceux qui sont responsables de tout ça. Parce que bien sûr, là, on n'a pas parlé de ça, mais il y a toute une couche très politique qui vient en plus, je dirais, boucler un petit peu ce monde très particulier.
Mais lui, il n'est pas passé de l'autre côté. Il est resté, vous le disiez, dans le quartier bobo de Baltimore, finalement.
Non, bah, aller vivre là où se passe The Wire, effectivement, ça serait une sorte de sacrifice, quoi, d'expérience sociologique, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans des zones. Enfin, moi, j'ai jamais croisé autant de gens bizarres que dans une rue de Baltimore, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Éric Vera. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver le philosophe Mathieu Pott-Bonneville pour continuer à parler avec lui de David Simon, l'auteur, on l'a dit, notamment de la série The Wire. Mais tout de suite, c'est le moment d'En Compagnie des revues.
La Compagnie des auteurs. Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui, Pierre Cros du réseau social littéraire Babelio. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous avez souhaité justement parler un petit peu de notre sujet de la semaine, puisque vous voulez commencer en évoquant David Simon.
Eh bien oui, comme David Simon a publié des livres, je me suis demandé s'il avait des lecteurs sur Babelio et ce que les lecteurs éventuels pensaient de son œuvre. Alors il en a 150 de lecteurs sur le site.
C'est pas tant que ça.
C'est pas tant que ça, mais il a pas encore une œuvre de littéraire encore très importante. Mais la plupart sont des lecteurs du livre Baltimore, publié chez Sonatine, et connaissaient naturellement l'auteur pour son travail sur The Wire, sur Écoute. Alors j'ai un peu regardé quel était leur profil. Ce sont à 60% des hommes, alors que d'habitude c'est un peu l'inverse. Il y a plus de lectrices que de lecteurs, et notamment dans tout ce qui touche au polar. À titre de comparaison, il y a beaucoup plus de lectrices de James Ellroy, par exemple, que de lecteurs, en tout cas sur Babelio. Alors ces livres ne sont certes pas exactement des romans policiers, mais ils se lisent tout de même un peu comme tels, et ce sont d'ailleurs, pour la plupart de ces lecteurs, des lecteurs de polar. Alors ce sont majoritairement aussi des lecteurs de plus de 30 ans, ce qui ne semble pas très étonnant au vu des sujets traités par l'auteur, son traitement assez violent, et aussi par le fait que la série commence un peu à dater peut-être, et qu'elle n'est pas sur des plateformes.
Vous savez, même parfois en dessous de 30 ans, on regarde des fictions violentes.
C'est vrai, de plus en plus.
C'est très rare, je suis d'accord avec vous.
Alors, les critiques sont en tout cas excellentes. Il a une moyenne de 4,3 sur 5, ce qui est assez exceptionnel, même s'il n'a pas, vous le soulignez, des milliers de lecteurs encore. J'en cite une, publiée sur Babelio et signée Arakazi. Baltimore, c'est beau comme du Shakespeare, drôle comme du Molière et tragique comme du Racine, à lire absolument.
Alors David Simon est-il le seul auteur qui écrive pour la télévision tout en étant auteur de livres que vous ayez repéré sur Babelio, Pierre?
Non, il y a beaucoup d'auteurs, de showrunners qui ont aussi écrit des livres. Il y a un livre qui avait énormément fait parler de lui à sa sortie, c'est S de J.J. Abrams, publié chez Michel Lafon. Un livre très étonnant dans la forme, puisqu'il s'agit d'un roman, mais qui est lui-même annoté par deux étudiants en histoire. Et à côté de ce roman, on retrouve les documents de ces deux étudiants. Donc vous l'aurez compris, un mystère se cache dans ce double récit et c'est au lecteur d'enquêter. Bon, en réalité, J.J. Abrams a donné l'idée de ce roman, mais le véritable travail d'écriture a été réalisé par un véritable écrivain du nom de Doug Durst. On retrouve tout de même dans ce concept les grandes marques de fabrique de J.J. Abrams, qui aime bien faire le malin dans ses séries télé comme Alias ou Lost. Et d'ailleurs, les fans de Lost, une des grandes séries télé de ces dernières années, dans un genre très différent de The Wire, peuvent retrouver un des co-auteurs de la série en librairie, mais cette fois au rayon BD. Il s'agit de Brian K. Vaughan, qui vient en effet de sortir une nouvelle BD très attendue, intitulée The Private Eye, chez Urban Comics. Mmh. Alors Brian K. Vaughan, donc, qui a officié sur Lost, c'est l'auteur de Y, le dernier homme, mais aussi de Saga, deux comics très appréciés. Et dans The Private Eye, il s'attaque à la notion de vie privée, à la part intime de soi que l'on est prêt à donner à des entreprises, à la place et au rôle du journalisme aujourd'hui, et à plein d'autres sujets très actuels comme ça, le tout dans une intrigue de polar futuriste. C'est l'une des grandes sorties comics de ces derniers mois.
Puisque vous parlez de BD, j'imagine que vous allez aller à Angoulême à la fin du mois pour le festival.
Oui, l'équipe de Babylone ne pouvait pas rater ce rendez-vous qui aura lieu donc en fin de semaine. Angoulême, c'est le premier festival de BD, sinon du monde, en tout cas d'Europe. Et à cette occasion, on a d'ailleurs publié il y a quelques jours le classement des bandes dessinées les plus populaires de l'année 2017 sur Babelio. C'est Pénélope Bagieux qui trône au sommet de ce classement. Son deuxième tome des culottés, dans lequel elle dresse des portraits de femmes au parcours incroyable, a été la BD la plus populaire sur le site. Elle sera présente, évidemment, cette année à Angoulême. Dans notre classement, on retrouve également Bastien Vivès, qui a proposé cet été Une sœur, nouvelle illustration du génie de Vivès dans le minimalisme. Et on retrouve plusieurs héros qui sont devenus cultes en l'espace de quelques années. Undertaker, un personnage de western, ou encore la bande des vieux fourneaux. Je vous laisse découvrir l'intégralité du classement sur Babelio. Et vous pourrez suivre l'actualité du Festival d'Angoulême sur le site, sur Babelio, et sur nos différents réseaux sociaux. Et si vous souhaitez prendre un verre avec l'équipe de Babelio et d'autres amateurs de BD, on vous donne rendez-vous le vendredi 26 janvier à 18h30 à Angoulême pour un apéro BD. Si ça vous intéresse, vous trouverez plus d'infos sur le site de Babelio.
Ça nous intéresse grandement. Merci beaucoup Pierre Cross, à bientôt. Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Rawface and DJ Easy Rock. Allez, on continue à parler de The Wire dans la compagnie des auteurs et de son créateur David Simon. À présent, avec vous, Mathieu Pott-Bonneville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vous avez beaucoup écrit sur Michel Foucault et notamment l'essai Michel Foucault, l'inquiétude de l'histoire, publié aux presses universitaires de France en 2004. Mais vous écrivez aussi sur les séries télévisées. Vous êtes vous-même consommateur, j'imagine, gros consommateur de séries télé.
Oui. Assez violemment. Ouais.
Ah, violemment.
De Game of Thrones à The Wire, la question des jeux auxquels jouent les séries télévisées m'intéresse plutôt.
Mmh. Vous parlez de Game of Thrones, c'est parce que j'imagine vous avez dirigé un ouvrage collectif sur Game of Thrones, un ouvrage qui traite donc de la série romanesque Le Trône de Fer de l'écrivain américain de science-fiction et de fantasy George R.R. Martin, adapté donc pour la télévision. Est-ce que vous voyez une différence de nature entre ces deux séries, The Wire de David Simon et Game of Thrones?
Ah, une différence de nature qui est évidemment tellement radicale que à la limite on ne voit pas du tout pourquoi rapprocher les deux séries. L'une est du côté de l'heroic fantasy, l'autre s'installe dans un naturalisme, vous l'avez bien dit, et la description d'une sociologie et d'une ville très particulière, très
enfin citée. Vous les rapprochez en tout cas par l'intérêt que vous leur portez. Ah,
moi,
ce
qui m'intéresse dans l'une comme dans l'autre, d'abord c'est ce motif du jeu, hein, puisque le sous-titre de
du jeu JEU,
oui, davantage que le JE. Le sous-titre de The Wire, c'était, enfin, le slogan, c'était It's all in the game. Tout est dans le jeu. Mm-hmm. C'est le jeu. Mm-hmm. Ce que les personnages répétaient assez souvent, ce qu'on retrouve évidemment dans Game of Thrones. Donc, l'une et l'autre série, chacune à leur manière, interroge ce qu'il en est du jeu social, du jeu politique, et de la façon d'y jouer et des effets que ce jeu des effets très sérieux, très violents, très durs que ce jeu peut avoir sur les individus qui s'y trouvent pris. Au fond, les séries sont aujourd'hui l'un des espaces narratifs où cette question du comment jouer et à quel jeu est-ce qu'on veut nous faire jouer se pose pour l'imaginaire contemporain.
Ce qu'on peut quand même dire sur ces deux séries-là, c'est qu'il y en a une qui a eu un succès beaucoup plus important que l'autre, et c'est Game of Thrones, parce que le succès de The Wire, même s'il est important, c'est un succès quand même de bouche à oreille, un succès de longue traîne, mais au départ, quand il a été diffusé, il n'a pas eu tout de suite le même, il n'y a pas eu le même engouement autour de cette série-là.
Bien sûr, pour toute une série de raisons, dont certaines tiennent à l'économie des séries, pardon de venir à ces questions matérielles, mais comme dit policier Lester Freeman dans The Wire, follow the money. Il faut toujours suivre l'argent et la manière dont l'argent circule détermine bien souvent ce qu'on va pouvoir en faire. The Wire correspond à un moment assez particulier de l'histoire de HBO, ce moment où les chaînes, un certain nombre de producteurs de séries, de chaînes câblées en particulier, prennent leur autonomie, s'affirment en produisant des objets très ambitieux. Très exclusifs, sur lesquels elles comptent pour asseoir leur notoriété critique et leur crédibilité presque auprès du public. Game of Thrones, c'est la suite de ça, mais c'est le moment où, au fond, les chaînes, et bientôt Netflix, et bientôt d'autres tuyaux, d'autres tubes, vont avoir une telle hégémonie que les séries vont devenir leur moteur principal et vont investir une très large partie de leurs finances dans la réalisation de ces séries.
Alors vous parlez des tuyaux, c'est évidemment très important parce que pendant longtemps, comme vous le dites, il a fallu suivre l'argent, il a fallu que les tuyaux acceptent de produire les idées des créateurs de séries, ce qui peut-être faisait que la littérature était d'une qualité jugée traditionnellement comme étant bien au-dessus des séries télévisées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec The Wire, par exemple, on est dans une série qui est à l'égal d'une grande œuvre littéraire ?
Alors, non seulement la série est à l'égal d'une grande œuvre littéraire, mais The Wire fait partie de ces objets télévisuels, de ces séries, qui recomposent complètement le paysage des genres et des influences. Pour le dire de manière très simple, on citait tout à l'heure Les Sentiers de la Gloire de Kubrick. Effectivement, il y a une réminiscence cinématographique dans The Wire, mais le fait est que The Wire, c'est le manifeste d'une télévision qui s'est en quelque sorte émancipée du cinéma. C'est-à-dire que The Wire va chercher ses références du côté du journalisme, du côté de la télévision, dans son autonomie, dans son histoire propre, du côté du feuilleton littéraire du 19e siècle en particulier, comme si le cinéma avait été, sinon une parenthèse, du moins l'une des formes possibles de la culture visuelle. Mais The Wire installe autre chose et dit au fond, je n'ai pas besoin, pour raconter une histoire, de faire comme si c'était du cinéma, et la télévision permet de faire tout autre chose. Et une série, dans sa durée, puisque au départ, David Simon obtient tout de même d'avoir un peu de temps devant lui et de pouvoir développer son histoire sur plusieurs saisons. Il ne sait pas au départ que ce sera 5 saisons, mais enfin, il a quand même un peu de temps. Ça va lui permettre de construire tout autre chose que du cinéma délayé ou du cinéma dévoyé dans les chaînes télévisuelles.
Et lui-même emploie, je crois, le mot de roman pour parler d'une saison de The Wire. C'est vraiment cela, dans en effet une certaine lenteur dans l'installation notamment des personnages. C'est cela la référence pour David Simon, c'est le roman.
Oui, c'est le roman. Alors c'est une question d'étiquetage et puis de recherche de légitimité, mais c'est aussi, je trouve que l'une des choses passionnantes dans The Wire, et qui n'est pas séparable au fond du propos politique, c'est la manière dont David Simon va explorer les potentialités propres à cette forme-là. C'est-à-dire qu'une saison, une série aujourd'hui, c'est des saisons, des épisodes à l'intérieur de saisons, donc une sorte d'emboîtement très spécifique.
Comme des tomes.
Comme des tomes, exactement. Avec des unités qui s'emboîtent, de sorte qu'on n'est ni dans l'éternelle répétition de la même chose, hein, comme un épisode de Starsky et Hutch ressemblait à un autre épisode de Starsky et Hutch.
Mais non, ils sont toujours un peu différents.
Voilà. ni simplement dans une continuité. Une série contemporaine, c'est une drôle de tricotage entre une progression narrative qui se déploient au rythme de la saison, et puis des épisodes qui ont chacun leur unité propre. Et la puissance de The Wire, c'est vraiment de faire quelque chose de cette forme-là et de s'en servir pour raconter quoi ? Pour raconter un jeu entre une agitation, une immobilité et une transformation historique.
Alors, justement, nous en arrivons donc au canapé, qui est le lieu de l'immobilité dans The Wire. Il faut expliquer aux auditeurs qui n'auraient pas vu la première saison qu'un canapé orange a été installé au bas des tours des immeubles. Enfin, installé est un bien grand mot. Disons qu'il se trouve là, il a été traîné jusque-là. Et les dealers sont assis la plupart du temps sur ce canapé. Et vous, dans un article que vous avez intitulé justement « All in the Game » dans cet ouvrage collectif dont je parle, The Wire, Reconstitution Collective, un ouvrage dirigé par Emmanuel Burdeau et Nicolas Vieillecas, qu'on peut se procurer aux éditions Les Prairies Ordinaires. Vous avez focalisé beaucoup sur ce canapé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ?
C'est tout de même, quelle que soit la volonté de naturalisme et de description objective de la réalité de Baltimore, David Simon fait des choix. Il fait des choix narratifs qui ne sont pas forcément des choix fictionnels. Je suis absolument persuadé que, comme dans tous les quartiers déshérités, il y a des meubles qui traînent sur les trottoirs de Baltimore. Mais c'est une chose de le remarquer, c'est autre chose que d'installer l'action autour de ce meuble, autour de ce morceau d'intérieur traîné à l'extérieur, et de dire au spectateur, voilà, voilà où nous sommes, voilà où nous allons nous installer quelque temps. Je crois que ça raconte plein de choses. On peut s'amuser à réfléchir sur ce canapé, à dire tiens, il y a un canapé aussi dans Friends. Au fond, c'est une manière
pas traîné dehors,
de clin d'œil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si l'univers des séries, des sitcoms se trouvait traîné dans une réalité sociale. Ou encore, le canapé, ben justement, c'est l'endroit où on regarde la télé. Donc c'est un objet de télévision, mais les spectateurs de la télévision vont aller plonger dans une réalité qu'ils ne sont pas habitués à voir.
D'ailleurs, c'est un petit peu comme s'ils regardaient la télé, les dealers qui sont sur ce canapé, parce qu'ils regardent leurs amis ou ennemis d'ailleurs se faire arrêter par la police sans bouger de leur canapé, en commentant un petit peu l'action, en insultant mollement les policiers. Il y a quelque chose de très étrange finalement dans l'espèce de passivité. Et puis, comme ça, l'espèce d'ordinaire l'intervention de la police, par exemple, dans ces quartiers qui est regardé comme un spectacle.
Oui, ils tiennent le mur, ils font pas grand-chose. Un peu, d'ailleurs, les séries David Simon sont peuplées de gens qui ne font pas grand-chose. Les macros dans la dernière série en date qui s'appelle The Deuce, qui est sur la question de la prostitution et de la naissance de la pornographie de masse au début des années 70. Les macros, ils sont assis, ils discutent. Et c'est des concours, des joutes oratoires absolument hilarantes entre des gens qui ne font pas grand-chose, qui se font cirer les chaussures, par exemple. Ce que David Simon fait là, c'est d'abord, effectivement, installer une immobilité au milieu de l'histoire. C'est Deleuze, philosophe Gilles Deleuze, parlait du cinéma au cinéma du passage de l'image-mouvement à l'image-temps. Je trouve que ce canapé installe une image-temps extraordinaire, que d'ailleurs certains spectateurs ne supportent pas. Je connais beaucoup de gens qui ont regardé, qui ont arrêté The Wire parce que ça allait beaucoup, beaucoup trop lentement, quoi. C'était pas possible.
Et c'est le cas dans toutes les séries de The Wire. Il y a toujours cette espèce de point d'immobilité sur lequel on s'attarde.
Oui, ce qui est paradoxal, c'est que cette immobilité, ce qu'elle fait surgir, c'est en même temps une histoire. Parce que le Baltimore que montre The Wire, c'est pas le Baltimore éternel. C'est le Baltimore pris à un moment assez précis, assez particulier de son histoire. De même que Show Me a Hero raconte l'histoire d'une banlieue de New York, Yonkers, au début des années 80. De même que The Deuce, c'est New York au début des années 70. David Simon fait de l'histoire. Mais il fait de l'histoire du point de vue, vu d'en bas, en quelque sorte, de sorte que les grandes transformations qui sont en train de se faire, hein, la manière dont le néolibéralisme va peser sur les pratiques de la police, sur les pratiques de la politique, tout ça est ressenti par en bas, hein, comme une sorte de grondement qui vient affecter de très loin, et sans qu'ils y puissent grand-chose, les acteurs sociaux, et qui va les contraindre à adapter leur comportement. Donc c'est une très curieuse manière de ralentir le temps pour le faire repartir.
on a l'impression qu'il réussit cette chose quand même qui est un rêve de romancier, que de montrer non pas des histoires, mais de montrer une structure, de montrer une société et de le montrer de manière totalement non manichéenne. C'est-à-dire que c'est une structure qui est sans cesse mouvante, une structure que finalement lui-même ne saisit pas totalement, mais qu'il arrive pourtant à nous montrer, Mathieu Pott-Bonneville.
Oui, oui, c'est une structure dont d'ailleurs personne ne maîtrise les tenants et les aboutissants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsable. Il y a une curieuse tension dans la politique de David Simon, si on peut parler comme ça, entre une vitupération assez violente contre les hiérarchies intermédiaires. La chain of commons, c'est quelque chose.
Et la bureaucratie.
La bureaucratie et les petits chefs ou les moyens chefs, on va dire. On retrouve ça
pas dans, les grands chefs.
Dans Generation Kill. Les grands chefs, c'est autre chose. Les grands chefs, de toute façon, c'est pas leur problème. Il y a ceux dont c'est pas le problème.
C'est vrai qu'on parle jamais du président des États-Unis dans The Wire.
Non, on parle de Tommy Carchetti qui devient maire et qui, à l'instant où il devient maire, parce qu'il veut candidater au Sénat, oublie instantanément les promesses qu'il a faites et auxquelles le spectateur a cru. Et à une coupe dans les budgets des écoles. Il y a une scène absolument extraordinaire parce qu'au fond, Tommy Carchetti, c'est pas son problème. Ce qui se passe à Baltimore, c'est très lointainement son problème. Ceux à qui David Simon en veut vraiment et ceux à qui il réserve ses charges les plus acides, ce sont ces chefs qui sont au contact de la réalité de ce que fait la police, par exemple le commissioner Burrell dans The Wire, qui sont des modèles, là pour le coup la référence à Kubrick est opérante, hein, qui sont des modèles de veulerie et d'arrogance en même temps, et qui font une vie impossible à leurs subordonnés, et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer.
Y'all can't be playing no checkers on no chessboard, yo!
All right, man.
Now look, check it, it's simple. See this? This the kingpin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game.
All right, what about them little bald-headed bitches right there?
All right, these right here, these are the pawns. They like the soldiers.
So how do you get to be the king?
It ain't like that. See, the king, stay the king, all right?
Alors ce qu'on entend ici, c'est une scène de The Wire où les dealers jouent aux échecs. C'est dans la première saison et c'est une scène qui vous intéresse en particulier, Mathieu Pott-Bonneville, parce que c'est une sorte de métaphore finalement pour leurs conditions dans la ville de Baltimore, à ces petits dealers, parce qu'ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Il y a aussi une échelle sociale hein, chez les caïds, très clair, et eux, c'est les petits pions finalement représentés sur le jeu d'échecs.
Oui, c'est une scène très ambiguë en fait, parce que donc le neveu du caïd, D'Angelo Barksdale, explique à ses lieutenants les règles des échecs. Et puis l'un des lieutenants s'imagine qu'au fond, aux échecs, c'est un peu comme aux dames. C'est-à-dire que lorsque un pion va jusqu'au bout de l'échiquier, il devient roi. Et D'Angelo lui dit non, the king remains the king. Le roi reste le roi. Autrement dit, il y a quelque chose d'inamovible dans les hiérarchies sociales et tu ne peux pas espérer remonter tout le courant. C'est une sorte de critique voilée d'une certaine idéologie américaine de la capacité d'arriver jusqu'en haut lorsqu'on est parti d'en bas. Non, il y a des règles, mais ces règles, d'une certaine manière, elles sont pipées.
On peut devenir la dame quand même quand on arrive de l'autre côté de l'échiquier et qu'on est un simple pion.
L'échange s'interrompt un petit peu avant cette subtilité. Ce qui est intéressant là, c'est que David Simon reprend une sorte de poncif en fait de la littérature policière. En un sens, The Wire n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une série policière. Il reprend les gendarmes et les voleurs l'idée qu'il faut construire un récit un peu comme une partie d'échecs, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Agatha Christie, etc. Toute la question, c'est c'est comme si David Simon a raconté une partie d'échecs du point de vue des pions.
Oui.
Au fond, plutôt que d'être du dessus et de surplomber l'intrigue en faisant un jeu intellectuel, mais on s'intéresse au point de vue et au monde de chacune des pièces, sachant que le monde du fou n'est pas celui du pion, parce que ses capacités de déplacement sont différentes.
Peut-être pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, donner un tout petit peu le goût de Trimmy, qui est donc une autre série de David Simon, qui se passe celle-là à la Nouvelle-Orléans. Donc ça parle à la fois de la musique de la Nouvelle-Orléans et puis aussi de l'après-Katrina. Est-ce que ça a pour vous, Mathieu Pott-Bonneville, la même puissance dramatique que The Wire?
Oui, Trimmy est une série extrêmement forte, avec une sorte d'inversion, puisque dans The Wire, on va vers une dégradation. On a l'impression que les choses suivent leur cours, mais en réalité, les choses deviennent de plus en plus violentes et de pire en pire, alors que dans Trimmy, c'est la question d'une catastrophe qui est advenue,
qui est derrière nous,
et de ses effets qui ne cessent de parcourir le corps social, hein, le corps politique, de se propager, en fait. Trimmy, c'est vraiment l'histoire d'une propagation ou d'un écho, ce qui n'est pas sans lien avec la question de la musique. Moi, j'ai une vraie tendresse, un amour pour The Wire qui est sans égal, parce qu'il me semble que il a trouvé dans cet environnement-là, dans cet univers-là, la capacité de déployer des personnages absolument extraordinaires.
Et puis on sent avec lesquels on connaît un petit peu mieux aussi l'univers de Baltimore.
Oui, je sais pas. Après, il y a un effet de troupe, c'est-à-dire qu'on retrouve dans Trimmy des acteurs de The Wire et on a plaisir à les voir changer entièrement de figure et de physionomie. Il y a, cette dimension-là est également très belle.
Merci beaucoup Mathieu Pott-Bonneville d'avoir partagé avec nous votre lecture de ce qui se joue dans la série The Wire. Je rappelle que vous avez participé au recueil The Wire Reconstitution Collective. On peut se le procurer aux éditions des Prairies Ordinaires. Vous avez également dirigé un autre recueil collectif, Game of Thrones, série noire. C'est chez le même éditeur. Demain, nous serons en compagnie d'Ariane Hudley pour continuer à parler de The Wire. Mais avant cela, comme chaque jour, place à la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, nous allons essayer ces jours-ci de nous frayer un chemin dans la poésie de Mina Loy. Chez nous, on est bien chez nous. Il n'est ni vie ni mort, poésie complète de Mina Loy. Il n'est ni vie ni mort, seulement l'activité. Et dans l'absolu, nulle déclivité. Il n'est ni amour, ni désir, seulement la générosité qui voudrait posséder et nullité. Il n'est ni premier, ni dernier, seulement l'égalité et qui voudrait régner rejoint la majorité. Il n'est ni espace, ni temps, seulement l'intensité et les choses apprivoisées n'ont nulle immensité. Dans la postface d'Olivier Appert, Love Song to Mina Loy, nous trouvons « Sa beauté s'est retirée en elle-même, un regard comme foudroyé d'indifférence. Elle porte parmi nous un regard aveugle qui semble avoir contemplé la Gorgone. Elle nous offre cette apology of genius et toute une poésie prismatique qui joue avec ce monde arrêté dans la densité d'où, grâce à quelques perceptions d'une quatrième dimension, elle s'évade. » Mina Loy est née en 1882 à Londres, elle est morte en 1966. Sa vie semble se partager entre New York et Paris. Partie des futuristes, elle est une figure irrésistible des avant-gardes littéraires et artistiques. Écoutons Apologie du génie. Apologie du génie. Lépreux de la lune, tous magiquement malades, nous venons parmi vous, purs de nos lumineuses plaies, ignorants comment nous dirigeons les lumières de notre esprit vers la passion de l'homme, jusqu'au moment où vous tournez vers nous vos doux visages de fous, semblables aux fesses dénudées par d'arborigènes moqueries. Nous sommes les clowns sacerdotaux qui de vent et d'étoiles des pâturages poudrés de la pauvreté s'approvisionnent. C'est un extrait. Si par une volonté de tout englober, dit son traducteur Olivier Appert dans une passionnante postface, de n'écrire un poème qu'après avoir maîtrisé tous les paramètres que son dire implique, afin de présenter au monde un objet poli qui soit un miroir, voire une boule de cristal, si donc je pouvais être tenté de vous rapprocher, Mina Loy, de la posture d'un Valéry posant le poème comme une fête de l'intellect, du moins m'empresserais-je d'ajouter qu'il s'agit davantage pour vous d'une opération mystérieuse de l'esprit et de la chair allant crucifier l'ego. L'oiseau d'or de Brancusi, comme si, la patience de quelques dieux paysans avait poli et poli l'alpha et l'oméga de la forme à partir d'une masse de métal, orientation dénudée, désempennée, déplumée dans la dynamique du vol, le rythme final a élagué les extrémités de crête et de serre. L'acte absolu de l'art accorda à la chasteté de la sculpture, nue comme l'arcade d'Osiris, sein de la révélation, une courbe incandescente léchée par les flammes chromatiques dans les labyrinthes du jeu des reflets. Et le jouet devint l'archétype esthétique.
Merci Jacques Bonafé, vous consacrez votre semaine à la poétesse britannique Mina Loy dans une traduction de ses œuvres complètes par Olivier Appert.